Libradio, www.libradio.org. La radio qui n'annonce rien de bon. Pour personne.
Léandre Ackermann, bonjour. Bonjour. Renata, bonjour. Nous sommes donc à Papégras, en fait, nous ne sommes pas à Papégras, nous sommes dans un studio, tu vas nous dire, vous allez nous dire ce qu'on fait dans ce studio-là, enfin, pourquoi nous sommes là, parce que c'est assez original. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'était d'être à Papégras, donc au Hall de Lille à Genève. C'est ici que La Bûche, fanzine collective de créatrices de BD, de bandes dessinées, de Suisse romande, vernit son expo. Le vernissage, si je ne me trompe, a eu lieu hier soir.
C'est ça.
Très bien. Alors dites-nous quelques mots de ce studio où on est, et puis ensuite on va parler évidemment du vernissage également.
Alors c'est un studio qui nous a été mis à disposition par les créatives dans le cadre de la collaboration qu'on a avec elles pour le festival. Et donc c'est très bien placé juste à côté de Papiégras. On est très, très heureuse de pouvoir en profiter. Voilà.
Voilà, il faut savoir qu'on est vraiment sur un îlot au milieu du Rhône, qu'on jette un œil au travers de la fenêtre et on a des bateaux qui sont à nos pieds. Mmh. Enfin, c'est extrêmement confortable. On y est bien. Sauf que voilà, c'est temporaire.
C'est temporaire.
Et
oui,
malheureusement,
oui.
La bûche ne s'installe pas dans ces nouveaux locaux. Comment s'est passé le vernissage hier soir ?
Bien.
Très bien, beaucoup de monde.
Oui, il y avait plein de monde. Et surtout, comme on était 44 contributrices à cette expo, on avait beaucoup de bûcheuses, parce qu'on s'appelle un peu comme ça. C'est un peu un surnom qui s'est affirmé au fil du temps. Et leurs proches et d'autres personnes du festival, c'était très joyeux et très plein.
Mmh. Oui, et c'était pas une expo facile à mettre en place. Mmh. Nous, on s'en est pas occupé. C'est tout le galeriste, enfin les personnes qui travaillent à Papiégras qui s'en sont occupées. Donc c'était beaucoup de boulot. Puis on est bien contente de pas l'avoir fait.
Quelles sont les difficultés majeures que l'on rencontre dans ce type d'expo ? C'est l'accroche, c'est les lumières, c'est quoi ?
C'est surtout sur la quantité d'œuvres et puis la quantité d'artistes aussi pour essayer de rassembler d'avoir tout le monde représenté là malheureusement.
Ils ont encadré, ils ont fait les passe-partout en papier, c'est accroché, c'est énorme.
Ouais. Je vous pose cette question-là parce que plus tard il y aura une question qui viendra sur justement quelles sont les corvées qui sont les pires. Mm-hmm. Et effectivement, on ne le dit jamais assez, mais les mises sous cadre, effectivement, avec les passe-partout, etc., c'est un gros, gros travail.
Oui. Hein.
Ouais. D'accord. 44 contributrices, étaient présentes en dessin. On va revenir sur ce chiffre parce que c'est une des singularités du fanzine qui, à chaque numéro, et si j'ai bien compris, on en est au quatrième, il y a un nombre tout à fait précis de contributrices, qui est de 17.
Oui, c'est ça.
Alors, pourquoi 17 ?
Parce qu'il y en avait 17 dans le premier, et puis que, voilà, c'est resté comme ça. Dès le deuxième, je crois qu'il y avait l'idée de reprendre ce nombre, et puis au final, ça devient un nombre assez pratique pour ne pas en mettre trop non plus, qu'on puisse quand même avoir un objet qui pèse pas 2 kilos, ouais. Et puis, et puis qu'on a quand même un bon nombre, je sais pas. On n'est pas hyper attaché à ce 17, mais c'est une sorte de tradition, quoi.
Ouais, très bien. Mm-hmm. Comment se perd le filtre ? Plutôt elle, plutôt qu'elle ? Ou est-ce qu'elle, ce sera pas à celui-là, mais au prochain ? Comment est-ce qu'on réfléchit tout ça ?
Il y a différentes choses, mais on essaye de voir déjà principalement à la motivation des personnes. Et puis, on essaie toujours d'avoir dans chaque numéro un équilibre entre les plus débutantes, les plus confirmées, et aussi différents styles, que ce soit mainstream ou plus expérimental. Et. Ouais, voilà.
Ouais, très bien. Renata ?
Non, je pense que le nombre de 17, c'était un hasard, quoi, ouais. Parce que la première fois. C'était un peu un défi, je crois, hein, qu'elles sont. Faites quelque part, quoi. Est-ce qu'on a assez, on aurait assez pour de filles qui font la BD, l'illustration, pour remplir un fanzine qu'avec des filles ? Et elles ont activé leur réseau, les gens qu'elles connaissaient, etc. Le premier s'est fait un peu comme ça, et à la fin, on avait 17. Et Donc, il n'y a pas eu de, comment dire, des gens qui se sont spontanément qui sont venus pour dire est-ce que moi je serais intéressée parce que c'était nouveau. Maintenant,
à partir du deuxième, oui. Mm-hmm. Moi, je suis entrée dans la bûche à partir du deuxième numéro. Mm-hmm. J'ai vu qu'il y avait ça qui se faisait. J'étais pas dans le réseau et puis j'aurais dit hey, ça m'intéresse,
c'est super mm-hmm. et tout ça, oui.
On en est au quatrième numéro. Mm-hmm. Ça veut dire que ça à quelle fréquence que... Parce que la bûche existe depuis 2015, si je ne me trompe pas.
Ouais. Oui. Ouais, c'est ça.
Ça veut dire qu'en gros, c'est un numéro tous les...
C'est un numéro par an.
Un numéro par an. Très bien. On va...
Plus... Oui, pardon. Un numéro par an, oui. Plus des hors-séries.
Alors, c'est les questions hors-séries mm-hmm. et les partenariats, là, j'ai vu. Mm-hmm. Mais voilà, il y a beaucoup de singularités dans vos modalités de fonctionnement, donc on va essayer de les aborder un petit peu toutes. Mais je voulais déjà vous poser la question, on va faire un petit peu à l'envers, hein. les thèmes, c'est thème libre tout le temps, ou alors est-ce que parfois, eh bien, il y a un thème conducteur pour un numéro?
Alors, pour les numéros classiques, avec les 17 nouvelles contributrices, c'est toujours libre. L'idée, c'est vraiment de montrer aussi toute la diversité des thèmes qui peuvent être abordés par les autrices. Donc, leur laisser toute la liberté, c'est peut-être le plus simple.
Mmh. Et les hors-séries, par contre, abordent des fois des thématiques particulières.
Voilà. Ouais. On a des thèmes... généralement, on a un thème pour les hors-séries. Mais les hors-séries, ça peut être des choses qui se font... Par un partenariat, justement, comme celui qu'on a fait avec la ville de Genève sur le thème de l'égalité, ou alors c'est notre envie, c'est comme le hors-série érotique qu'on a fait, ouais. Comme un défi collectif un peu pour aborder ce thème qu'on n'attaquerait pas forcément spontanément dans nos travaux.
Ouais. Il y a deux contraintes pour la bûche quand même, c'est la couleur, enfin pas de couleur, noir et blanc et gris, et le nombre de pages, soit une, soit trois, soit cinq.
Par contribution.
Un nombre impair.
Oui, un nombre impair, c'est une histoire de pagination aussi, pour sinon, carte blanche.
Mmh. D'accord. Les matériaux, parlons quelques secondes des matériaux. Papier, ensuite fusain, encre, crayon.
Tout est libre.
Tout est totalement libre.
Tout, ouais.
Parce que c'est vrai qu'on voit, là on vient de faire un tour dans l'exposition, le noir et blanc, c'est quelque chose d'important. Pour vous, ça, c'est un parti pris qui vous habite depuis le départ ou c'est venu un petit peu plus tard. Et est-ce que vous allez rester là-dessus? Ou est-ce que, pourquoi pas, un jour, vous adopteriez la couleur?
Alors, il y a peut-être juste une chose, c'est que l'exposition, c'est pas forcément des dessins qui sont dans la bûche. Il y a une partie de dessins qui sont dans la bûche, mais on a demandé aux autrices d'envoyer les dessins qu'elles voulaient vendre, principalement. Oui. Donc... c'est un mélange de travaux, d'autres travaux personnels. Mmh, mmh. Mmh.
Mais le noir et blanc, je dirais que c'est une petite tradition quand même des fanzines, parce que les fanzines, pour les gens qui ne savent pas, c'est une petite publication indépendante, bon marché, faite un peu sur... un peu improvisée, souvent, ça vient un peu des milieux punk, rock, etc. Et typiquement, on faisait ça en photocopiant, quoi, même... il y avait à l'époque, comment ça s'appelait, ces machines qu'on tournait, je ne sais même plus le nom, enfin bref. Et donc, oui, et le noir et blanc dans la bande dessinée, c'est aussi une... Il y a une tradition, oui. Il y a des grands dessinateurs qui utilisent seulement le noir et blanc. Et bon, la plupart des gens, je pense qu'on utilise les deux, forcément, quoi, mais... je pense qu'un fanzine, d'abord, est traditionnellement noir et blanc. Quoi.
Ouais. Ok, donc ça fait pas... Bon, après, il y a vraiment beaucoup d'audace hein, dans ces dessins. On voit, il y a des angles comme ça, enfin, c'est extrêmement original. Et puis on voit qu'il y a... on pourrait dire qu'il y a des choses expérimentales, dans le sens où on voit qu'il y a des tentatives, des recherches comme ça, l'ombre et la lumière qui se croisent comme ça, enfin c'est extrêmement des silhouettes qui se dessinent, que l'on reconnaît, pour lesquelles il faut prendre un peu de distance, enfin
Oui, il y a aussi ça par rapport aux personnes qui contribuent à la bûche, dans l'espèce de sélection qu'on fait, c'est plus ou moins, la BD plus ou moins traditionnelle, parfois c'est des personnes qui font quelque chose qui s'élargit peut-être à du dessin narratif, donc un peu plus proche de l'illustration, mais on essaie quand même de rester dans quelque chose voilà, de narratif. Sinon, si on regroupait toutes les femmes qui dessinent, ben, on se perdrait un peu dans quelque chose de... Il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop.
Absolument. On peut dire qu'il y a un ton.
Et il n'y a pas de... Enfin, ce ne serait pas aussi pertinent.
Absolument. Alors, bien entendu, que je fais question obligée, je vais vous demander de nous dessiner un petit peu les contours du collectif de La Bûche, puisque c'est, donc on l'a dit, un collectif de créatrices de BD en Suisse romande. Mais avant cela, on est ici donc à Papier Grain, et c'est dans le cadre des créatives, donc un festival féminin et féministe, que cet exploit a cours. Pour vous, c'était important de faire partie des créatives, d'être partie prenante dans les créatives ?
Je pense que c'était surtout pour les créatives. Elles étaient très séduites par La Bûche, par l'idée de bande de filles. C'est une idée qui les préoccupe pas mal ces temps. Je crois que c'était même un des fils rouges de cette édition. Et nous, on est une bande de filles, quoi. On est un collectif, c'est vrai. J'aime bien dire, ces temps, on n'est pas un club, quoi. On n'est pas une sorte de club. On se retrouve pour boire le thé ou la bière toutes les semaines. C'est très improvisé, mais en même temps, on crée des liens. C'était aussi un des buts de la création de ce fanzine, c'était de créer un réseau. Puisque les garçons sont là depuis plus longtemps, ils ont des réseaux qui sont là, qui sont bons, c'est fait. Et nous, on était un petit peu isolés. Et puis maintenant, ça nous donne beaucoup de force. C'est l'idée des créatives aussi. C'est la démarche féministe des créatives. C'est pas dans tout, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, ce qu'elles disent aussi. Elles ne sont pas en train de militer. C'est pas un militant tout le temps, chaque événement. Il ne faut pas que tout le monde soit féministe. Mais la démarche de mettre en avant les femmes... C'est carrément féministe et c'est la même chose avec La Bûche, quelque part. Après, il y a des filles qui sont plus ou moins engagées, ou voire pas du tout. Elles sont engagées dans la bande dessinée et puis c'est, pour nous, c'est égal, quoi. Donc, nous, on a tout de suite répondu présent parce que ça correspond à notre... à cette démarche, quoi, du fanzine, de La Bûche. Et on a trouvé une super idée pour collaborer ensemble en plus.
Mais je crois que, précisément, je crois que c'est Roland de Papier Gras qui a contacté les créatives pour proposer qu'on fasse une exposition.
Qui êtes-vous, combien êtes-vous et comment est-ce que La Bûche fonctionne-t-elle ?
Actuellement, on est 70. Voilà.
J'accèle le nombre, 70. Ouais, c'est
70. Pas un peu plus ?
Non, parce qu'il y a 17, 17 fois 4.
Voilà, ouais, exactement.
Plus un duo qui nous a rejoint, un duo de dessinatrices qui nous a rejoint pour le hors-série érotique.
Mais il y a les Sœurs Forêt Noire, qui
justement.
Sont 5.
C'est elles.
Ah non, les dimanches.
Ah oui, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est juste. Il y a aussi, un collectif qu'on a invité en tant que collectif.
D'accord.
Les dimanches, voilà. Et qui sont 5.
Donc ça ajoute 4.
Voilà. 74 alors.
Ouais, 74, c'est d'accord. Et alors voilà, comment vous fonctionnez ? 17, on a dit 17 contributrices par numéro. Thème totalement, complètement libre. Et puis alors voilà, est-ce qu'on filtre un peu ? Est-ce que vous parlez entre vous ? Ensuite, les rôles sont-ils distribués entre ceux qui vont faire une mise en page, ceux qui vont distribuer le...
Ça se fait de façon assez spontanée. Alors bon, clairement, on a une graphiste. Jenny, qui est une des fondatrices de La Bûche. Alors là, elle s'occupe vraiment du graphisme et de la mise en page. Ça, c'est clair. Autrement, au départ, en fait, c'est justement Fanny et Jenny, Fanny Vaucher et Jenny Lutcher qui ont fondé La Bûche et qui faisaient tout, simplement. Et maintenant, on est un petit noyau de 5-6 personnes plus actives. Mais toutes celles qui veulent participer à un moment ou à un autre sont toujours les bienvenues pour donner un coup de main, faire quelque chose. Il y a quand même la difficulté, c'est pour la gestion des infos, en fait, pour essayer de faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce qui se passe sans noyer sous des mails. On essaie de bien pouvoir rassembler les informations, les renvoyer au bon moment.
Y a-t-il des décisions difficiles à prendre ? Et si oui, lesquelles sont-elles ? Ces décisions où des fois il faut trancher, Ou des fois, il faut vraiment
J'ai participé à la sélection cette année pour la première fois et c'est dur, hein, parce que en fait, il y a beaucoup de gens.
Au bout de la troisième déjà, on avait plus de possibilités, enfin de. On avait une liste plus longue de potentiels.
Il y en a, puis il y a de tout. Il y a celles qui n'ont pas le temps, celles qui répondent pas. C'est peu, mais ça arrive. Et puis celles qu'on voudrait bien avoir chez nous, enfin dans le fanzine. Et puis il y en a qui sont presque dans la liste, mais il faut faire des choix, quoi. C'est terrible. Il faut trancher.
En même temps, c'est un exercice qui est aussi super agréable, super enrichissant, parce qu'on découvre, énormément de d'autrices, dessinatrices et des talents, quoi.
Oui.
Absolument. Que parfois on se demande où ils étaient. Mm-hmm. Elles sont ici, elles sont en Suisse romande, des filles super talentueuses, et on les découvre juste là comme ça, peu. Alors que ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça, qu'on les cherche.
Et il y même en a des classiques qu'on connaissait pas, quoi, qu'on découvre, enfin qui faisaient la bande dessinée, qu'on peut arrêter, puis enfin bref, c'est compliqué maintenant.
Ok. Alors on va venir là-dessus. labuche-union.ch, ça c'est le site internet parce qu'on l'a pas encore cité jusqu'ici. Alors le site recense notamment les numéros disponibles. Les 4 numéros sont disponibles.
Et non, le premier numéro est épuisé.
D'accord.
Mais
a priori, en tout cas, on y trouve.
Toutes les publications sont disponibles en ligne aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Et évidemment, le site contient également la présentation du collectif, les dessins EINS, je voulais faire le petit jeu de mots, qui vous habite, puisque ce sont des dessins. Alors, celui central de visibiliser des créatrices de bandes dessinées. Alors justement, quelle est la situation des femmes dans le milieu de la BD, selon vous, depuis votre position? Est-ce qu'on y observe, le cas échéant, une évolution, on espère positive? Situation des femmes, et vers où on va, depuis votre position?
Il y a, pour des raisons historiques, il y a moins de... On est encore une minorité de femmes dans le milieu de la bande dessinée. Mais l'évolution va se faire très très vite, je pense, maintenant qu'on est entendu, qu'on a pris conscience du fait qu'il pouvait y avoir des biais de sélection, justement, dans des expositions collectives, par exemple, ou dans des publications collectives, où on peut se retrouver avec seulement des noms de d'hommes, mais sur des trucs vraiment assez gros, hein, avec parfois, justement. On avait vu une exposition à Genève avec 80 dessins de dessinateurs. L'exposition était présentée comme une exposition de collectif de dessinateurs de toute génération et de tout style, mais il y avait une femme dedans.
Quand on dit invisibiliser, là on est vraiment dans des situations incroyables.
Et il y a des efforts qui se font dernièrement. Hein. Les gens commencent à s'en rendre compte.
Justement, maintenant, on y fait attention. C'est pas forcément des sélections, c'est pas des biais forcément inconscients.
Oui, c'est pas conscient. C'est une fille, on va la mettre de côté. Non. C'est pas mal intentionné. Mais c'est comme dans toute la société. Enfin, on se demande aussi, mais pourquoi il y a moins de femmes, cadres, ou des femmes politiques. Enfin, c'est complexe, hein. C'est un truc un peu de... C'est pas que le milieu de la bande dessinée qui
Alors que vous le dites, les talents existent. Ils sont là, sauf que voilà, on les voit pas.
Mais il y a quand même, je dois ajouter, quelques préjugés quand même. Hein. Il y a... Cécile qui racontait hier, Giovannini, une dessinatrice de Martinique, qui racontait qu'elle faisait l'école. Elle a fait une école de bande dessinée au Valais. Et elle faisait un workshop avec un monsieur qu'elle n'a pas nommé, assez connu, et qui lui a dit « tu fais très bien, tu sais, t'es très bonne, tu feras comme toutes les filles, tu seras une super coloriste ». Et ça, c'est un classique. Ouais. J'ai déjà lu et entendu différentes fois, et même des grands noms de la bande dessinée, des femmes qui disaient ça, quoi.
Ouais, miser comme ça, c'est pas beau, quand
oui.
même. Ouais. Ok. En quoi la bûche contribue-t-elle à ce que justement cette situation change, à ce qu'on aille à contre-courant, à ce que justement on surgisse, on émerge ces talents féminins, féministes.
Simplement parce qu'on se rencontre et que par le collectif, on rend visible certains travaux. Mais le...
Ça permet, on peut dire que l'écrin, qui est la bûche, permet justement à des personnes qui ne seraient probablement pas éditées, publiées, de le faire.
Je ne dirais pas jusque-là, parce que c'est difficile de savoir qui serait édité, comment ça se passerait sans nous, mais je veux dire, simplement, on se donne cet espace pour juste renforcer, pour s'encourager un peu les unes les autres.
On pourrait parler d'empowerment, par exemple.
Ouais. Oui. Ah oui, carrément, ça, je trouve.
C'est une notion qui vous habite, en tout cas.
On n'a pas réfléchi à ça, mais tu dis ça, oui, alors je suis d'accord, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, je commence un peu dans cette voie. Et le fait d'avoir été contacté par la bûche comme ça en disant salut, on a vu ce que tu fais, on aime bien, mais c'est énorme quoi. Ensuite de se faire publier, pour moi c'était une première aussi, de voir le fanzine, c'est un super premier pas quoi, et de participer ensuite à ce collectif, de rencontrer d'autres qui dessinent, et tout d'un coup on se rend compte qu'on a les mêmes univers, qu'on a les mêmes problèmes, qu'on peut changer des techniques, des plans ou des anecdotes. Ça fait que ça m'a empowerée.
Empouvoirée.
Empouvoirée.
Je sais pas comment on dit.
Version française, ça serait ça. Ouais.
Ça serait empouvoirée. Je suis très empouvoirée.
Alors, Renata, comme tu viens de le dire, être publiée, c'est quand même... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au moment... C'est un moment charnière. Il y a le avant et le après, je suppose. La bûche, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que ça existe. Lorsque l'on publie, qu'attend-on, où a-t-on, ou que trouve-t-on comme retour? Ça, c'est le premier volet de la question. Parce que là aussi, il se peut qu'il y ait justement des fois des retours un petit peu délicats, un petit peu compliqués. Et le deuxième volet de la question, c'est y a-t-il des pairs PAIRS justement ailleurs avec lesquels vous êtes en contact qui font un peu le même travail, typiquement d'autres collectifs de BD féminines, féministes, que vous connaîtriez ou pas spécialement?
Non, pas tout à fait. En fait, l'originalité de la bûche. C'est qu'on se met pas forcément l'intention est féministe, l'intention de base, ce qui nous a poussé à faire la bûche, mais le résultat, pas forcément. Je veux dire, au-delà de ça, on se laisse tellement de liberté que finalement on peut se retrouver avec un objet qui serait carrément. Le risque est quand même faible. Mais. En France, il y a, par exemple, on a le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, mais qui fonctionne totalement... Enfin, c'est un collectif qui est là pour, grosso modo, pour signaler les problèmes qu'il peut y avoir de sexisme dans le monde de la bande dessinée. Mais il n'y a pas du tout de... Enfin, chacune... Il n'y a pas de création dans ce cadre-là.
D'accord. Et quant au retour, avez-vous des retours des expos que vous faites et lesquels sont-ils?
Je pense que petit à petit, hein, on voit les retours des gens, les créatifs qui nous ont contactés.
On a beaucoup de propositions. En fait.
Oui.
Vous êtes beaucoup sollicités, de plus en plus sollicités.
Bah, autant que collectif, mais après aussi peut-être individuellement. Clairement. Il y en a qui sont contactés par Pictobello, pense. Oui.
On sert d'annuaire, en fait, aussi.
Oui.
Pour d'autres événements, pour d'autres festivals comme ça.
Il y a ce rôle-là aussi qui est important.
On nous a demandé est-ce qu'on peut envoyer des bûches parce qu'on doit faire une sélection et puis... On aimerait bien s'assurer d'avoir des femmes aussi.
Y a-t-il des aspirations qui vous habitent encore maintenant? Vous avez envie d'aller vers quoi? Parce qu'il y a, au bout du 4e numéro, pourrait-on dire, bon, je ne vais pas parler de lassitude certainement, mais il y a une routine peut-être qui s'installe. Est-ce le cas? Et si c'est le cas, est-ce que vous essayez de combattre ça? Ou est-ce que vous êtes toujours habité par des étoiles qui vous mènent vers... Et d'autres horizons.
Alors moi je pense qu'on pourrait totalement continuer, mais c'est vrai que pour celles qui organisent, qui tiennent le fanzine un peu, qui le concrétise.
Oui.
Ouais, il peut y avoir une petite, un peu de fatigue au niveau de l'organisation. Mmh. Et puis on a quelques idées. On a quelques idées pour la suite, pour essayer de relancer un peu autre chose. Mais ça, on en discutera.
C'est quelque chose en gestation, j'imagine.
Oui, c'est en gestation. Et puis je crois qu'il y a une volonté de réfléchir en collectif, justement.
Ouais.
Et c'est pour ça, c'est très difficile de se rencontrer parce qu'il y a des filles qui sont à Genève, à Delémont, à Lausanne, même en France, il y a des romandes qui sont ailleurs.
Romans, en fait, les autrices sont romans, soit elles vivent en Suisse romande, soit elles sont romandes. Okay. Donc elles peuvent effectivement être à Bruxelles, mais elles ont un lien avec la Suisse romande.
Mm-hmm.
D'accord.
Alors on a le projet là de nous rencontrer bientôt. Et
en dehors des mm-hmm. d'un festival, c'est ça qui est super important aussi, c'est qu'on on a fait ça pour pouvoir se rencontrer lors des festivals, c'est presque un prétexte, à la limite la publication pour se rencontrer,
mm-hmm.
mais on se rend compte aussi que finalement, il y a tellement de choses à faire en festival qu'on court beaucoup,
on est dans le guidon et du coup on est moins disponible à ce qu'il pourrait...
On se croise, on fait la bise, on est content, on a le temps de dire j'ai adoré ce que tu as fait, c'est quel crayon que tu utilises, mais après on n'a pas le temps de réfléchir justement, d'aller plus loin et de voir tout le monde, hein. Il y en a plein que je n'ai pas encore connu de
personne. Dans ces aspirations, est-ce que justement les hors-séries que vous faites déjà, les différentes collaborations, est-ce que ça fait partie peut-être justement d'une des aspirations qui pourrait augmenter par la suite?
Ça dépend, en fait, ça dépend des envies, des disponibilités de nos bûcheuses. Mmh. Et s'il y en a qui veulent prendre les rênes pour un projet, je pense qu'il peut se faire.
Mmh.
Mais au niveau d'énergie à mettre... dans celles qui sont dans celles
plus actives,
qui sont plus actives, je pense qu'un par année c'est bien.
C'est du boulot déjà.
J'imagine, c'est clair. Alors justement, quand on parle de boulot, le gros du travail est certainement fait à l'ombre de ce que l'on peut voir au moment des expositions. Alors quelles sont les grosses corvées qui vous déplaisent et à l'inverse, quels sont les plaisirs éclatants?
Moi, les expositions, justement, le montage de des expositions.
Ça, c'est la corvée.
Ouais.
Mais coordonner tous ces gens, si c'était une personne qu'on expose, c'est une chose. Mais maintenant, 40.
Et c'est pour ça qu'on est bien contente de ne pas l'avoir fait dans le cadre des créatifs.
Oui, mais quand on a fait, c'est surtout toi et les autres à Delémont, par exemple.
Delémont, ça aussi. Ouais, si, c'était quand même beaucoup. Mais Bibliomédia. À Lausanne, on a exposé.
D'accord. On va doucement arriver au terme de cet entretien, mais si vous êtes d'accord, parce qu'on est à la demi-heure, mais si vous êtes d'accord, j'ai encore trois petites questions, si ça vous va.
Ouais.
Et puis, je ne sais pas si les personnes présentes parmi nous souhaitent également vous interroger, eh bien, n'hésitez pas. Alors, j'aurais une question après un petit peu essentielle comme ça, à laquelle vous répondrez ou pas, mais avant ça, je voulais encore vous demander, qu'est-ce qui jauge des parutions de l'existence de la bûche? Ce que je veux dire par là, c'est que quelles en sont les ressources nécessaires? Est-ce que c'est le temps. Hein. Est-ce que il faut de l'argent? Est-ce qu'il faut des matériels? Parce que il faut également produire des objets qui ne sont pas des objets de rien du tout. Voilà. Alors, quelles sont les différentes ressources et desquelles auriez-vous besoin plus que maintenant, que ce que vous n'avez actuellement?
Du temps.
Du temps.
Les contributrices, on n'en manque pas.
Voilà, absolument.
De l'argent, ça va. On fonctionne quand même avec un petit budget. L'air de rien. Bon, on imprime quand même en Suisse, mais ça reste des petits formats en noir et blanc. Ça reste quand même relativement modeste comme budget.
Ouais.
Donc on l'atteint assez vite. Par contre, on peut. On a fait des demandes de fonds cette année pour essayer aussi de payer les contributrices. Ce qui a bien marché.
Ah, ça c'est pas mal. Parce que il y avait une sorte de cachet.
Voilà.
Un petit modeste, mais il faut dire que jusque-là, tout a été fait sur la base du bénévolat. Et aussi, ce que tu disais, Léandre, c'est modeste comme un budget, mais c'est modeste aussi parce qu'on ne se fait pas payer.
C'est ça.
Si on se faisait payer de l'heure, etc., on ne pourrait pas...
C'est la tournure de la question qui rend la chose un peu difficile à dire, c'est que C'est énormément de travail, de tout ça. Mais on n'a pas besoin de grand-chose pour le faire. Donc, c'est effectivement, si, bon, dans l'argent, tout ça.
Alors voilà, s'il fallait qu'on lance un appel, ce serait plus justement pour bah voilà, trouver un mécène ou quelqu'un qui donnerait un petit peu d'argent, ou alors des gens qui vous proposeraient des lieux pour monter des expositions.
Non,
par
alors
exemple.
Non, parce que plus d'expos, c'est plus de boulot.
On
essaie de rester sur des choses très et l'objectif principal c'est quand même la publication.
Maintenant que vous avez répondu à toutes ces questions triviales ou pas, eh bien j'aurais voulu vous entendre en quelques mots vous prononcer sur quel est pour vous le sens de la BD. C'est quoi faire de la BD? Quelles en sont les fonctions? Quel en est le sacerdoce? La BD, quel rôle ça joue dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde qui est celui du virtuel beaucoup, celui des médias sociaux, celui des écrans? Est-ce que dessiner en noir et blanc, est-ce que ça fait pas des fois un peu obsolète, ou est-ce que des fois, voilà, est-ce qu'on vous, voilà, selon comment vous situez au devant d'un monde dont les enjeux sont ceux qui nous attendent?
Question là. Merci.
C'est un langage, c'est sujet, certes, oui. Mais voilà, la BD, on peut dire que c'est quand même. Il revient-on? Je dis ça parce que typiquement, la radio est un média auquel beaucoup de gens reviennent. Parce que trop de numérique, de virtuel, au bout du compte, eh bien, d'être fini par peut-être écœurer les gens.
C'est comme la radio, la bande dessinée peut être aussi sur Internet.
Oui.
Donc, je pense pas qu'on sépare forcément le numérique du média, quoi.
Mais sinon, je dirais qu'il y a, vraiment une... il y a beaucoup plus de bandes dessinées. Enfin, ça fait longtemps que ça existe. Hein. C'est plus que centenaire. Et il y a de plus en plus de gens qui en font. Il y a une diversité incroyable. Il y a du reportage. Il y a Joe Sacco qui va en Bosnie, en Sarajevo. Et qui fait du reportage. Il y a des récits intimes, il y a des biographies, et je pense que c'est les gens commencent à prendre au sérieux la BD depuis quelques années. Il y a des écoles qui donnent des BD à lire, alors que il y a quelques années, les gens considéraient comme de la mauvaise lecture. Et je pense que ça fait partie, c'est une branche de la littérature, on peut dire. Maintenant qu'il y a vraiment
C'est indépendant.
Si, c'est indépendant, mais je veux dire, c'est apparenté. Oui, c'est évidemment. Mais c'est. Comment dire, c'est du livre quand même, quoi. C'est la famille du livre. Oui, c'est la famille de l'image, et c'est un neuvième art, quoi.
C'est un langage. Pour moi, c'est un langage.
Oui, voilà. Oui.
Ouais, absolument. C'est une belle conclusion. Je trouve que c'est un langage, effectivement, qui contient toute sa légitimité et tout son sens en soi, et qui permet, effectivement, par ailleurs, des avancées extrêmement audacieuses. On l'a dit, hein, avec des dessins particuliers, avec des supports particuliers, avec des formats qui sont novateurs. Hein, on voit les différents formats. Cette exposition, elle en est une très belle illustration. On voit que, ne serait-ce que juste avec du noir et du blanc, du papier, de l'encre, du fusain, du crayon, des choses comme ça, eh bien... des très très beaux dessins nous surprennent à chaque coin de mur. Donc du coup, on recommande aux personnes qui vont écouter ce podcast de venir. C'est jusqu'à quand l'exposition? 1er décembre?
1er décembre, oui.
1er ou 2e.
J'ai noté.
Sur le 1er.
Au moins jusqu'au début du mois de décembre.
J'ai pas noté le bon truc.
Non, mais c'est pas grave. Le temps que tu regardes, on termine de commenter
oui,
ça.
Oui, alors,
on va rappeler pour le site.
Pour le sacerdoce.
Oui.
Tu mettras si tu veux, mais je sais pas, mais le sacerdoce, moi je me sens pas super légitime parce que j'ai pas encore publié tout ça, mais je me rends compte surtout du boulot que ça représente de produire une bande dessinée. C'est énorme, on se rend pas compte parce qu'on le lit très vite, surtout si elle est bonne, on la lit très vite, mais ça représente au moins 6 mois et des fois même quelques années de travail. Et ça serait bien que ça soit reconnu aussi. Et puis aussi, moi, ça demande beaucoup de discipline, quoi, au niveau personnel, de le faire.
Ouais, ok. Est-ce qu'on a également ce problème dont on dit que les auteurs sont touchés, les auteurs de livres, le problème de la page blanche? Ou est-ce que quand on dessine, on jette plus facilement ou assez rapidement des contours ou des silhouettes, et puis ensuite on y revient.
On a tous des, on a voilà. tous, toutes des façons différentes de travailler. C'est vraiment difficile de donner une réponse mmh. générale là-dessus.
Mmh. Très bien. Est-ce que par hasard, pour en terminer, mmh. à moins que tout d'un coup des questions surgiraient encore, mais est-ce que vous pourriez, est-ce que vous aimeriez et pourriez en vivre? Est-ce que ça, c'est une parmi les aspirations qui vous habite?
Alors moi, j'ai absolument pas l'espoir d'en vivre, et ça ne va pas m'empêcher de continuer à en faire, parce que on est dans une situation au niveau de la bande dessinée où ça devient, c'est très délicat. Et puis, c'est surtout que, personnellement, j'ai envie de le garder comme un plaisir. Donc, j'ai pas envie d'en dépendre. Mais si ça arrivait, on cracherait pas dessus. Voilà.
D'accord. Renata, sans... même position ?
Ah, mais ça serait le rêve. Mais déjà, il faut que j'en produise. Et c'est vrai que c'est difficile de le concevoir. Il y en a très peu qui vivent de ça.
D'accord.
Mais... En tant qu'artiste, on voudrait toujours vivre de son art ou de ses arts différents, quoi. C'est dur pour tout le monde.
Ok. Léandre, Renata, je vous remercie beaucoup. On le rappelle, l'expo de la bûche a lieu à Papiégras, la galerie Papiégras, ici au Hall de Lille à Genève. L'entrée est libre. Mm-hmm. Est-ce qu'on a les horaires au bout
du coup ? Oui, on a les horaires.
Ouais, alors, on y va.
De 12h à 19h tous les jours, sauf le lundi jusqu'à 15h30, et le samedi à partir de 10h30.
Super. Est-ce que quelques activités un petit peu spéciales, un petit peu originales
Oui, il faut le dire, bien sûr. Allez. Parce que dans le cadre des créatives, la collaboration qu'on a développée, c'est que la bûche autant collectif est engagée comme la presse dessinée du festival. Donc, par jour de festival, on aura entre une et trois bûcheuses qui vont aller partout dans les événements. On s'est distribué un peu les événements et puis on va retranscrire en dessin, en bande dessinée, en caricature ou que sais-je, des événements qu'on va voir ou les rencontres ou des anecdotes. Et tout ça sera vu dans les réseaux sociaux du festival, mais aussi dans une autre exposition
évolutive
qu'on appelle évolutive, parce que maintenant elle a que 3 jours, 4 jours, et puis tous les jours il y a un petit peu plus de dessins qu'on va accrocher le lendemain. Tout à l'heure, il y a cette fille qui est venue, qui va partir au Valais, elle nous a laissé ses dessins que Léandre va accrocher au théâtre, au café du théâtre Saint-Gervais, la réplique. Donc j'invite les gens d'aller voir, et même plusieurs fois, parce que tous les jours il y aura un peu plus de dessins.
D'accord, donc une forme de BD reportage s'implémente à chaque jour.
Ce qui peut être une des réponses possibles à la place de la bande dessinée aujourd'hui.
Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames et qui étête les corps.